Bonjour tout le monde. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc vous connaissez cette citation de Nelson Mandela, ou alors encore Thomas Edison, qui dit « Je n'ai pas connu l'échec, j'ai juste essayé 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas. » Donc on va parler du « mindset », donc c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel un entrepreneur ou n'importe qui finalement dans sa vie doit pouvoir faire face aux situations. Et quand on entend ce genre de phrase, à la limite ça a l'air simple, mais vous savez sans doute comme moi que les choses ne sont pas aussi évidentes. Et dans la vie de tous les jours, pouvoir avoir cette attitude de se dire je ne perds jamais, ce n'est pas évident. Imaginez-vous maintenant quelques secondes chacun. Si je pouvais avoir cette attitude, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc la vie serait probablement tout autre. Et c'est ce dont je vais vous entretenir aujourd'hui. Donc je vais essayer de voir avec vous comment se construire alors un tel état d'esprit. Parce qu'effectivement, on pourrait se dire que c'est quelque chose qui est uniquement mental. Mais on va voir que c'est un peu plus complexe que ça. Alors je suis Bernard Gevorts. Je me présente souvent comme un agent apporteur de confiance. Donc je suis formateur en fait maintenant depuis 20 ans dans le domaine du développement personnel, les relations interpersonnelles. Et ce que je fais en général, c'est d'aider des gens justement à pouvoir s'affirmer, à pouvoir prendre la parole en public. Et je dirais que j'adore mon métier pour ce genre de choses parce que je vois très souvent dans les formations que j'anime des gens qui arrivent à se transformer justement par un travail sur soi. Puisqu'effectivement, on va parler du mindset, du mental, mais généralement le travail se pratique à d'autres niveaux que simplement au niveau du mental. Le mental étant peut-être une résultante globale ou en tout cas la chose qui nous permet d'intégrer un ensemble plus large. Donc voilà ce dont nous allons nous entretenir ce matin pendant 45 minutes. Donc apparemment on est très strict sur les horaires, donc je vais essayer de ne pas déborder. Donc j'ai tendance parfois à m'étendre un peu, donc je vais essayer d'être peut-être un peu plus rapide sur les slides et vous permettre aussi à ce moment-là de poser des questions. Alors vous voyez le schéma qui se retrouve ici. Donc puisqu'on m'a demandé de parler notamment de l'estime de soi, de la confiance en soi, donc là vous avez un schéma qui reprend un peu les différents éléments. Donc vous voyez l'estime de soi, la confiance en soi, et surtout aussi l'affirmation de soi. Parce que agir dans le monde, agir dans la relation avec les autres, construire un projet, une entreprise, aller se présenter pour un entretien d'embauche, ça demande de l'affirmation, c'est-à-dire, vous le voyez, la capacité à se relier aux autres et à pouvoir entrer en relation et oser le faire. Parce que généralement, ce qui se passe, et je suppose que pour pas mal d'entre vous, c'est le cas, et rassurez-vous, ça a aussi été souvent le cas pour moi et ça l'est parfois encore, mais quand on est dans des situations un peu inhabituelles, on est stressé, on a le trac. Et le stress pour certains, ça peut complètement les enfermer. Donc on n'arrive plus à s'exprimer, on n'a plus les idées claires, on a le cœur qui bat, on transpire et tout ça sont des éléments qui vous bloquent après dans la capacité à entrer en relation. Donc pour pouvoir justement le faire avec plus d'aisance, il faut arriver à se sentir légitime, à être, je dirais, en accord avec soi-même, donc ce que je vais appeler l'authenticité, on va y revenir tout à l'heure. Et donc ça va donner alors de la confiance en soi. Alors la confiance en soi, c'est quelque chose qui est lié surtout aux expériences, c'est-à-dire que quand vous faites quelque chose et que ça fonctionne bien, vous avez réussi, ça va vous donner de la confiance en vous. Donc ça donne effectivement à ce moment-là un sentiment positif qui nous amène à pouvoir recommencer d'autres expériences similaires ou en tout cas parfois différentes, parfois plus risquées, mais comme on a déjà fait des choses et qu'on a de la confiance, on va pouvoir oser aller plus loin. Donc cette confiance, elle va aussi permettre de nourrir l'estime de soi. L'estime de soi qui, vous le voyez, finalement est un peu à la base de tout, c'est l'opinion que vous avez de vous-même, comment vous vous voyez. Et c'est là parfois où se pose le problème justement de l'état d'esprit, du mindset. C'est que pour beaucoup parmi nous, on peut avoir des pensées limitantes. Est-ce que je vais être capable de le faire? J'ai jamais fait ça, je ne sais pas le faire, je vais perdre mon affirmation, je n'oserais pas. Donc bref, on s'auto-limite. Et dans beaucoup de cas, les échecs sont liés à notre auto-destruction, on pourrait dire, à notre auto-limitation. Et beaucoup n'osent pas faire des choses simplement parce que ils s'auto-limitent eux-mêmes. Donc c'est là le plus grand défi probablement pour chacun d'entre nous, c'est d'arriver à oser. Et oser, c'est ne pas attendre plus de 2 secondes quand quelque chose se présente à vous. Si une opportunité se présente à vous, c'est 1, 2, et c'est lever la main avant que le 2 soit arrivé, parce qu'après, c'est trop tard, on est parti dans nos pensées et on n'hésite pas. Donc par exemple, ici, si je dis, je veux un volontaire. Trop tard. Les 2 secondes sont passées. Donc, vous voyez, l'idée, c'est quand vous avez une opportunité, vous levez le bras, après vous allez dire, zut, maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais faire? Mais ça, c'est pas grave. Donc, l'important, c'est oser. Oser, c'est déjà une victoire. Donc, ça nourrit aussi la confiance en soi et l'estime de soi. Après, on se débrouille avec ce qui se passe et on essaye de faire face à la situation. Donc, rassurez-vous, je vais encore demander des volontaires tout à l'heure. Donc, je vais voir si ça va fonctionner pour vous. Bien, donc, l'idée, c'est que l'on va travailler un peu sur le mindset, hein, mais donc vous voyez le mindset parfois ça met du temps à charger. L'idée c'est qu'à la fin de la conférence vous ayez la capacité à vous rebooster, hein, à vous remettre de l'énergie, donc au niveau du mental comme au niveau, on va le voir, des émotions et du physique pour pouvoir faire face aux éléments qui sont les éléments que vous devez affronter au quotidien. Alors, je vais essayer de développer quelques éléments. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez comprendre. Et quand je ne dis pas comprendre sur le dessin, vous le voyez. Donc, c'est aussi une manière pour vous de voir comment vous formulez vos objectifs. Si j'avais dit mon objectif, c'est que vous puissiez comprendre les leviers sur lesquels vous pouvez agir. Donc, moi, comment je vérifie que vous pouvez comprendre? Et comment vous vérifiez, vous, que vous avez compris? Donc, c'est pour ça que je dis, l'objectif, c'est que vous puissiez citer et expliquer les leviers sur lesquels vous pouvez agir. Si vous ne pouvez pas les expliquer, c'est que vous ne les avez pas compris. Donc ça, c'est aussi une manière de se projeter dans des situations. Vous devez être plus concret. Quand on fixe des objectifs, souvent, on est souvent très vague. Ah oui, il faut que je comprenne ça. Mais ça veut dire quoi comprendre? Ça veut dire que je dois pouvoir l'expliquer à quelqu'un et capable de répondre aussi aux questions qu'il va me poser. Donc, je ne sais pas si en 45 minutes, je vais réussir ce défi, mais en tout cas, je vais essayer de donner des choses très claires pour que ça soit le plus pratique possible pour vous dans le quotidien. Alors l'idée, c'est qu'on va comprendre un peu comment fonctionne le mental, les émotions et les comportements, parce que tout ça est relié, et ce n'est que quand tout ça est relié et en accord que l'on est authentique et que l'on peut être le plus affirmé possible. Donc on va voir comment travailler sur ces éléments-là. Alors je vais aborder avec vous 5 clés du charisme, donc de manière plus ou moins rapide, mais vous verrez qu'après vous pourrez aller beaucoup plus loin par rapport à ces éléments-là. Alors, comment renforcer votre authenticité? Donc là, je vais vous donner notamment un exercice que vous pourrez pratiquer, le travail sur la posture, mais aussi on verra un travail sur l'expression des émotions. Donc voilà quelques éléments sur lesquels on va travailler ce matin et je vous donnerai des pistes pour aller plus loin par la suite. Alors Gérard Depardieu dit « Le charisme, ça ne se travaille pas, le charisme c'est inné. » Alors, qui pense que le charisme c'est inné? Heureusement, il n'y en a pas trop. Donc ceux qui pensent que c'est inné, vous pouvez sortir, parce que ça ne sert à rien de suivre une conférence sur le charisme. Si c'est inné et que vous ne l'avez pas, c'est foutu. Donc, le charisme, heureusement, n'est pas inné. Donc ça veut dire que nous pouvons tous développer du charisme. Sinon, je n'existerais pas en tant que formateur parce que je ne servirais à rien. Donc, il y aurait ceux qui ont le charisme d'emblée et puis ceux qui ne l'ont pas, tant pis pour eux. Maintenant, c'est clair qu'il y a des gens qui, à la naissance, ont plus de capacité peut-être pour exprimer certaines choses. Par exemple, les extravertis, quand ils sont jeunes, auront tendance à oser plus facilement des choses. Et donc, peut-être ils ont des capacités à être un peu plus charismatiques à un moment donné. Mais ils ont aussi des défauts que n'ont pas les introvertis. Et donc, quand les introvertis arrivent à s'exprimer un peu plus vis-à-vis des autres, ils peuvent être aussi de très grands leaders et avoir beaucoup de charisme. Donc, rassurez-vous, quelle que soit votre situation actuelle, même si vous êtes très timide, vous pouvez développer du charisme. D'ailleurs, quand j'avais votre âge, plus ou moins, en tout cas pour les plus jeunes parmi vous, j'étais très timide. et je n'osais pas trop m'exprimer en public. Dans les réunions, j'étais plutôt silencieux. Et avec le temps, en devenant d'une part formateur, j'ai d'abord été commercial, donc ce qui m'a permis d'apprendre à entrer en relation avec les autres. Et après, en devenant formateur, et donc comme je le dis, ça fait 20 ans que je suis formateur, donc cette année, donc ça m'a obligé à pratiquer, à être face à des gens parfois tous les jours pendant des périodes assez longues. Donc à ce moment-là, quand on pratique, on devient confiant, puisque l'expérience quotidienne permet de nourrir la confiance, l'estime, et après on se sent légitime et on peut s'affirmer sans trop de problème. Donc rassurez-vous, quel que soit votre niveau actuel de charisme ou de leadership, vous pouvez le booster et aller beaucoup plus loin. Et on va voir quelques clés pour pouvoir le faire. Donc, le charisme, ça n'est pas inné, ça se travaille. Alors, comment ça se travaille ? À travers différentes approches, il y a différentes clés, différents éléments sur lesquels on peut travailler pour travailler et développer son charisme. Peut-être je précise un petit peu, puisque je parle de charisme et de leadership déjà quelques fois depuis ce matin. Donc en fait, le charisme et le leadership ont la caractéristique de donner de l'influence. Donc l'idée justement du charisme et du leadership, c'est comment on a plus d'influence par rapport à nos interlocuteurs, que ça soit en tête à tête, lors d'un entretien pour un commercial ou lorsque vous allez à un entretien d'embauche, ou alors comme ici dans cette salle aujourd'hui, donc c'est avoir de l'influence sur un groupe. Donc j'espère que d'ici la fin de la séance, j'aurai de l'influence sur vous, c'est-à-dire vous permettre de faire des choses à partir de ce que je vais dire. Donc le leader, c'est ça, il influence et il génère du changement. Si on ne fait pas ça, c'est qu'on n'est pas un leader. Maintenant, tout le monde ne doit pas spécialement être leader, mais je pense que tout le monde peut l'être, même dans son environnement, avec vos enfants, vos conjoints, vos voisins, vous pouvez amener du changement. Et ça, c'est du leadership. Donc, chacun d'entre vous ici peut devenir ou est déjà un leader. D'accord ? Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette vision des choses ? Oui ? Tout à l'heure, il y aura des questions, des débats, donc on pourra y revenir. Alors, je vais vous parler de plusieurs clés, et la première clé dont je vais vous parler, c'est en fait le lien. En fait, je ne peux avoir aucune influence sur vous si, à un moment donné, il ne se crée pas un lien. C'est-à-dire si, quelque part, il n'y a pas un lien de sympathie entre vous et moi, si vous n'écoutez pas ce que je vous dis, si vous n'accordez pas votre attention, je ne peux avoir aucun impact sur vous. Donc, et c'est pareil quand vous allez voir un recruteur, quand vous allez voir un client, il ne peut rien se passer tant que vous n'avez pas créé un lien. Et le lien, c'est quelque chose de très subtil. Et c'est ça, quand on parle de charisme quelque part, c'est la manière dont on va créer le lien avec cette personne, et après cela nous pouvons l'influencer ou en tout cas échanger avec elle, parce que ça se fait aussi dans les deux sens évidemment. Donc effectivement, un lien spécial avec le groupe, et pour ça il est très important de s'intéresser à l'autre. Donc le piège le plus grand pour un leader ou pour quelqu'un qui s'estime être un leader, c'est l'égocentrisme. L'égocentrisme fait que l'on se replie sur soi, et quand on va voir un client, par exemple, le commercial, il va parler que de son produit. Pas de ce que le client peut faire avec son produit, mais de son produit. Ou quand vous allez voir un recruteur, vous parlez de vous. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai tel diplôme, j'ai tel truc. Mais l'autre, il s'en fout complètement. Pour que l'autre il vous écoute, il faut qu'il entende. Mon expérience me permet d'apporter ceci dans votre entreprise. Ou avec un client, c'est de lui dire, mon produit, voilà ce que vous allez pouvoir faire avec mon produit. Donc il faut s'intéresser à l'autre pour pouvoir avoir une influence sur lui. Donc c'est bien pour ça que je n'ai pas commencé par me présenter tout à l'heure, parce que à la limite, vous vous en foutez de qui je suis. Vous voulez simplement savoir d'abord ce que je vous apporte. Après, vous allez vous dire, oui, mais quand même, il nous raconte des choses. Est-ce que c'est un expert? Est-ce qu'il a la légitimité pour m'apprendre des choses? Alors oui, après, je vous dis quand même qui je suis, de façon à ce que vous vous rendiez compte que ce que je dis, c'est peut-être pas que des bêtises. Peut-être il y aura des bêtises dedans, mais en tout cas, il y a des choses qui sont liées à une expérience. Alors chacun, bien sûr, vit son expérience. L'important, c'est que son expérience lui permette de transférer éventuellement certaines choses vers d'autres, et ça peut leur servir aussi. en sachant que chacun doit pouvoir utiliser ses propres outils. C'est un peu comme une brosse à dents, hein. Chacun a sa brosse à dents, hein. On fait tous la même chose avec sa brosse à dents, mais c'est sa brosse à dents. En général, on ne la donne pas aux autres. Donc c'est pareil pour l'expérience, c'est sa propre expérience. On peut la partager, l'autre peut en retirer des éléments, mais après, il y a tous les aléas qui vont avec chaque situation. Donc, stop à l'égocentrisme, hein, vous avez compris. Et pour cela, je dirais, il faut s'intéresser à l'autre dans deux aspects. Donc d'abord, la préparation. Je ne vais pas entrer trop dans le détail, mais ça veut dire que quand vous allez devoir vous adresser à quelqu'un, en individuel ou dans un groupe, il faut d'abord réfléchir à qu'est-ce qui est intéressant pour lui. Qu'est-ce que je peux transmettre? Pas juste qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Parce que ça serait très égocentré. Donc on s'intéresse à qu'est-ce qui peut être utile pour des personnes qui doivent faire des entretiens d'embauche, hein, dans le cas ici, qu'est-ce qui peut être utile pour des jeunes cadres en entreprise, et à ce moment-là, je vais essayer de transmettre ce que moi je vois dans mon quotidien, dans mon expérience par rapport à ce genre de situation. Donc ça c'est la première chose, donc préparez-vous, que ce soit pour un entretien d'embauche, un entretien en clientèle, une réunion avec vos collègues. Il faut se préparer dans l'optique de qu'est-ce que je vais transmettre. D'accord ? Et ensuite, il y a comment on va le faire. Et ça, c'est les choses qu'on va voir après. C'est comment on interagit, comment on va parler en public, comment notre corps va s'exprimer face à ce public. Et là, on en arrive, je dirais, à une autre clé, donc, qui est liée à la communication. Alors, vous savez que dans la communication, il y a différents canaux. Donc, il y a les mots. Il y a la voix et il y a le corps. Donc ça, ce sont les trois canaux, je dirais, que vous pouvez percevoir pour l'instant quand je vous parle. Hein. Donc, je parle, je dis des choses, ma voix, elle a effectivement certaines caractéristiques et également mon corps. Alors à votre avis, qu'est-ce qui a le plus de poids dans l'interaction avec les autres? Est-ce que c'est la voix, le corps, les paroles? Qui pense que, ou combien de pourcents à la limite feraient, par exemple, les paroles? Dans le poids de la communication. Oui, donc parlez bien fort. Hein. Les paroles, combien de pourcents? Donc on va le dire sans micro, hein, sinon ça va prendre trop de temps. Combien de pourcents pour les paroles? 60%? 30? Qui dit plus, qui dit moins? 60? Ok. Donc la voix, à votre avis, que représente la voix? 50? 40? Donc, oui. Et le corps, alors? 70, 80, 100. Donc, vous voyez que les avis sont partagés. Alors, vous allez être sans doute surpris en voyant les chiffres. Donc, les mots, vous voyez, qui sont pourtant l'essentiel de ce que l'on essaie de faire passer, en fait, les mots sont en fait très peu attractifs. Donc, cette étude ne veut pas dire que les mots n'ont pas d'importance, bien sûr, parce que si ce que je suis en train de dire, vous ne retenez aucun élément, ça veut dire que, les mots ne servent à rien. Mais le but, c'est que vous reteniez quand même ce que je vais vous faire passer aujourd'hui. Mais vous n'allez le retenir que si vous êtes capté par ce que je dis avec ma voix et ce que je dis avec mon corps. Est-ce que c'est quelque chose de clair? Oui. Parce que c'est quelque chose qui étonne toujours les gens dans les formations que je donne. Beaucoup de managers pensent effectivement que c'est ce qu'ils disent qui est le plus important. Mais en fait, si on le dit mal, ça passe pas. Je vais vous faire une petite démonstration. J'ai passé une de ces soirées hier. J'ai passé une de ces soirées hier. J'ai dit exactement la même chose. Mais vous n'avez pas perçu les mêmes émotions. Donc, la communication, c'est une question d'émotion. Donc, dans la communication, nous allons en fait transmettre des émotions. Et les émotions, elles se transmettent essentiellement avec la voix et avec le corps. C'est-à-dire comment l'expression de mon visage va être perçue par vous. Et attention, c'est la plupart du temps inconscient. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de réfléchir en général à comment l'autre parle, qu'est-ce qu'il dit, comment... Non. Tout ça, c'est automatique, instinctif. C'est notre cerveau qui décode et qui enregistre des petites émotions positives ou des petites émotions négatives. Et c'est le total des émotions qui fait que, à la fin, on ressent un sentiment positif ou négatif par rapport à ce qui a été échangé. D'accord ? Donc retenez bien ça, ce n'est pas trop le message que vous allez dire qui est le plus important, mais c'est comment vous allez le transmettre. Comment vous allez faire la différence chez un recruteur ? Comment vous allez faire la différence chez un client ? Donc c'est la manière dont vous allez parler. Et on va voir bien sûr comment améliorer ces éléments-là. Donc, créer des émotions positives chez l'autre, c'est la manière d'entrer en relation avec lui. Donc vous avez vu, on a deux clés pour l'instant. Première clé, c'est créer le lien, parce que sans lien, on ne peut rien faire passer. Et comment on crée le lien ? Ben, c'est en émettant des émotions positives. Ou en tout cas, en créant chez l'autre des émotions positives, c'est-à-dire qui donnent envie d'être écouté, d'être suivi, et peut-être d'être influencé. Quand on est en phase avec quelqu'un, on se dit, ben oui, il a raison, ça peut fonctionner, je vais essayer. Donc c'est comme ça qu'on influence un client, qu'un recruteur, plutôt qu'un candidat peut influencer un recruteur pour être engagé par exemple. Alors généralement dans mes formations, pour justement s'entraîner à travailler sur les émotions, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident au départ, on ne nous apprend pas ça à l'école, parfois un peu, donc je donne des cours quand même en master et en MBA où je donne ce genre d'éléments, mais ce n'est pas partout dans toutes les écoles qu'on apprend à travailler sur les émotions. Donc généralement ce que je fais, c'est faire travailler les personnes des formations sur des citations. Donc je donne des citations, soit les gens les choisissent, soit je les donne au hasard, et ils doivent s'exprimer, dire cette citation avec une émotion particulière. Alors pour l'exercice aujourd'hui, on va juste le faire avec une ou deux personnes. Donc ce que je vais demander, c'est que vous choisissiez une citation et que vous la disiez avec le plus d'enthousiasme possible. Il faut que cette citation marque, je dirais, les autres et vous puissiez transmettre cette bonne humeur, cet enthousiasme. Donc je vous laisse lire peut-être une ou deux citations et je vais demander alors s'il y a un volontaire ou deux pour nous dire cette citation avec le plus d'énergie possible. Alors n'oubliez pas, qui est volontaire ? Voilà, très bien. Donc le volontaire, vous pouvez alors vous lever, hein, comme ça vous pouvez vous lever. Et donc on va voir les deux jeunes hommes là. Alors qui veut commencer ?
Merci, moi c'est Martin Diogo, étudiant en mathématiques. Je vais... Je vais intervenir par rapport à la première citation.
Juste dire la citation.
Merci. Je dirais vraiment ce qui vient de moi. Par rapport à la première citation, j'aimerais dire « Mieux vaut être maître de son propre destin ». Merci.
Ok.
Mieux vaut être maître de son propre destin.
Donc c'est une interprétation de la citation. Ça peut être le cas, hein. On peut interpréter. Comment ?
Je pense que c'est juste de redire.
Oui, mais vous pouvez y aller. Donc monsieur a fait une interprétation, mais c'est bien aussi.
Je suis Steve, étudiant marketing. Je dirige la deuxième citation. C'est ce que nous pensons déjà qu'on est qui nous empêche souvent d'apprendre. Claude Bernard, scientifique.
Ok. Merci. Donc en fait, ce genre d'exercice, je ne vais pas le faire avec tout le monde, sinon on va grignoter mes 45 minutes, hein, donc je ne pourrai pas continuer. Mais voilà le genre d'exercice que je vous invite à faire, donc ce n'est pas très compliqué. Vous choisissez des citations ou des textes que vous aimez, ça peut aussi même être des contes, des histoires, et l'idée c'est d'apprendre à les dire ou à les lire avec de l'intonation, avec de l'émotion. Parce que ça va vous aider à rentrer un peu plus dans la capacité justement à toucher les autres. Et avec le temps, si vous faites ça régulièrement, ben, ça va vous donner cette habitude de parler avec un peu plus de rythme, un peu plus d'émotion. Parce que sinon, on peut avoir une voix qui devient très monotone. Et quand on parle en réunion, ben, on a tous les collègues qui finissent par s'endormir parce que finalement, tout ce qu'on raconte, c'est un peu monotone, etc., etc. Donc, il faut apprendre à jouer avec la voix et de mettre de l'émotion. Mais pour ça, vous devez en avoir. Quand vous dites quelque chose à quelqu'un, à un client, à un recruteur, il faut que vous soyez dans l'envie de transmettre quelque chose. Donc, il faut de l'enthousiasme. Donc, vous allez transmettre votre enthousiasme grâce à vos émotions. D'accord ? Et c'est ça qui va créer le lien avec les autres. Donc les gens vont oublier ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront pas ce que vous leur avez fait ressentir. Donc c'est ça qui est important. Après un entretien avec un client, avec un recruteur, il faut qu'il ait un sentiment positif. Waouh, ça c'est peut-être bien mon candidat. Hein? Et après, peut-être il va réfléchir votre dossier, le CV, celui des autres. Mais l'impact au final, c'est l'impression que vous aurez laissée. Et peut-être vous avez le même CV que quelqu'un d'autre, ou en tout cas le même niveau, mais à ce moment-là, le recruteur, il va prendre la personne qui lui aura créé l'impact le plus positif. Donc, préparez-vous pour pouvoir créer cet impact. D'accord ? Alors, comment nous fonctionnons, justement ? C'est là où je vais vous dire un peu mais comment arriver à travailler un peu plus sur soi-même pour avoir cette confiance, cette authenticité et cette capacité à générer des émotions. Donc, nous sommes constitués, en fait, de trois compartiments, on pourrait dire, hein, trois plans, trois mondes, qui sont, ben, d'un côté, les pensées, et on pourrait ajouter au-dessus, d'ailleurs, un cercle qui est le spirituel, qui, bien sûr, est essentiel aussi pour chaque être humain, et on se relie au spirituel à travers la sphère mentale, à travers les pensées. Mais au niveau, je dirais, de la vie de tous les jours, ben, c'est surtout à travers nos comportements que nous allons nous exprimer. Il faut qu'on fasse descendre nos pensées dans les comportements. Justement, les gens qui n'agissent pas beaucoup, il y a des gens parfois qui pensent énormément, qui ont des tas d'idées, mais ils ne font jamais rien. Et parfois, le simple fait de penser à des choses leur suffit. Ils vivent dans leur tête. Mais quelque part, il n'y a rien qui en résulte. Et très souvent, le nœud du problème, c'est au niveau de la psyché. Parce que c'est très bien d'avoir des idées, mais si on n'ose pas, et oser, c'est quoi ? C'est avoir du courage. Le courage, c'est une force qui vient justement de la psyché. Agir avec cœur, courage. Donc ça vient du cœur, ça vient des émotions. Donc pour faire descendre nos idées, nos envies, nos projets, il faut pouvoir animer le moteur émotionnel. Il faut y mettre, oui, de l'enthousiasme. Donc c'est une énergie émotionnelle. La motivation, vient des émotions. Donc voilà, ça c'est le cœur de chaque être humain, c'est la gestion de nos énergies, de la psyché. Et c'est pour ça qu'on peut être très motivé à un moment donné, il suffit qu'il nous arrive un petit problème et toute l'énergie fout le camp. Parce que malheureusement, souvent cette énergie de la psyché, elle a tendance à disparaître très vite. On peut parfois la renourrir assez vite, mais elle part souvent plus vite qu'elle n'arrive. Donc c'est là où il faut trouver des éléments pour pouvoir se renourrir au niveau psychique. Et on peut le faire des deux côtés. Donc on peut travailler sur le mental et on peut travailler sur le comportement. Alors travailler le mental, c'est par exemple utiliser des citations, hein, comme je l'ai fait en début d'intervention. On peut utiliser des textes que l'on aime, on peut utiliser des prières, on peut utiliser toute une série d'éléments qui nous nourrissent au niveau mental et surtout qui vont court-circuiter aussi nos pensées limitantes. Parce que comme je vous l'ai dit, souvent c'est nous-mêmes qui induisons parfois un manque de confiance par des pensées qui sont négatives. Donc ça, c'est un travail à faire aussi sur le quotidien, c'est de nourrir le mental par des pensées positives, par des textes positifs, par tout ce qui vous nourrit. Et également le spirituel qui, justement, peut élever notre conscience vers le haut. C'est pour ça que dans le leadership moderne, on parle de plus en plus de spiritualité. Parce qu'on se rend compte que un leader, un être humain, ne peut pas vivre sans spiritualité. Donc ça c'est essentiel aussi et ça doit être pris en compte dans son développement personnel. D'accord ? Alors je vais surtout parler moi par la suite de ce que l'on peut faire au niveau du corps. Donc au niveau de la pratique quotidienne, au niveau de la posture par exemple. Alors pour pouvoir justement être efficace, être authentique, il faut arriver à relier tous ces éléments-là. C'est-à-dire nos idées, nos émotions, nos comportements. Le leader, dit-on, c'est souvent celui qui fait ce qu'il dit et ce qu'il pense. Donc, et c'est à ce moment-là que l'on crée en général un sentiment positif chez les autres. C'est que quand vous voyez quelqu'un qui est authentique, Il n'y a pas d'interférence. C'est-à-dire que ce qu'il dit est en accord avec ce qu'il montre. L'enthousiasme qui vient de sa voix, qui est montré dans son corps, il est en phase avec ce qu'il dit. Et donc, ça touche. Ça touche. Quand vous voyez des mauvais acteurs dans une mauvaise série, vous voyez tout de suite que ça ne marche pas. Ça sonne faux. Pourquoi ça sonne faux? Parce qu'ils sont en train de jouer des choses qu'ils ne vivent pas intérieurement. Donc ça sonne faux. Donc c'est pareil, quand vous allez chez un recruteur et que vous n'y croyez pas, ben, ça va sonner faux. Donc il a tout de suite détecté qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc ne racontez pas des histoires. Soyez vous-même, soyez authentique. Parce que là, vous allez être vrai. Et on pardonne beaucoup aux personnes qui sont authentiques. Les petites erreurs, c'est normal, tout le monde en fait. Et très souvent même, dans des études, on a montré que celui qui commettait des petites erreurs dans un entretien de recrutement avait parfois la faveur du recruteur. Parce que ça donne aussi de la sympathie, les petites erreurs. Quand on veut être trop parfait, généralement ça sonne faux. Donc soyez vous-même. Donc ça c'est très important. Donc ça c'est l'authenticité. Donc il faut travailler là-dessus au quotidien, par la pensée et par les comportements. Et donc, c'est cette caractéristique qui fait la troisième clé. Donc, il n'y a pas de charisme sans authenticité. C'est ça qui va avoir le plus d'impact chez les autres. Bien, alors on va justement voir maintenant comment travailler la chose au niveau de la posture. Alors, quand vous voyez ces deux personnes, qu'est-ce que vous pensez de leur attitude? Oui. De la peur, du repli, du stress, oui. Donc effectivement, la posture, en fait, elle traduit notre état intérieur. Donc votre non-verbal, sans que vous vous rendiez compte, il va transmettre l'état dans lequel vous êtes. Donc pour l'instant, je ne vois pas trop de personnes repliées de cette manière-là sur les fauteuils, donc c'est très bien. Donc c'est que vous êtes bien présent, bien ouvert pendant cette exposé. Alors, on va justement comprendre un peu maintenant ce qu'il y a moyen de faire au niveau de la posture. Donc ici, vous voyez, justement d'autres types de postures qui sont des postures plus affirmées. Quand vous voyez Wonder Woman ici, c'est quoi le sentiment qui ressort? Assurance, détermination. Donc effectivement, ce sont des postures qui expriment un sentiment de force, de fierté, d'assurance, même parfois de domination. Donc ici, vous voyez l'attitude des deux personnages. Il y a un dominant, un dominé. Rien que dans la posture. Vous voyez? Donc, ce n'est pas toujours l'homme qui domine, mesdames. Vous voyez? Donc, vous pouvez aussi, par votre attitude, montrer la confiance et la prestance. Donc, c'est ça que je voudrais que vous reteniez, c'est que la posture va montrer qui vous êtes. Le non-verbal, il ne ment pas. Donc, ça veut dire qu'il faudra être conscient de ça quand vous allez voir un recruteur, un client. Vous allez faire une réunion, il faudra travailler sur votre... Je suis trop loin pour la commande peut-être. Enfin, un dixième de seconde. Un dixième de seconde, c'est le temps qu'il faut pour se faire une première impression. Généralement, la première impression, et ça a été étudié dans une étude de l'université de Harvard, la première impression est faite sur le visage. Et c'est notre système limbique, automatique toujours, tout ça c'est pas réfléchi, qui, quand il voit quelqu'un, on regarde d'abord son visage instinctivement, donc c'est le côté animal de l'être humain, et on a un sentiment positif ou négatif. Et le jugement est parfois radical. Dans l'étude, c'était « c'est pas quelqu'un de fiable, non, je ne veux pas entrer en relation avec cette personne », simplement sur base du visage. Donc, pour faire une bonne impression, il faut un visage souriant, ouvert. Et à ce moment-là, vous déclenchez, ou plutôt vous ne déclenchez pas, le système automatique de repli, de protection. Donc, retenez bien ça, quand vous allez à un entretien, pensez à ouvrir le visage et à sourire. Parce que quand on est stressé, on a tendance à être un peu plus coincé, un peu plus refermé. Et on n'est pas très souriant, parce que les muscles se crispent. Donc, il faudra apprendre à se détendre. Donc, c'est le travail sur le corps. Alors pour faire une bonne impression, puisque le but c'est de faire une bonne impression quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous pouvez justement travailler sur vous. Première chose, bien sûr, ça marche tout seul. Alors. Première chose, c'est le visage, les 20 cm du visage, bien ouvrir et sourire. Et ensuite, c'est les mouvements, les premiers gestes que vous allez faire, les 20 premiers gestes, dit-on, qui vont déterminer, là aussi, des émotions positives ou pas. Donc l'idée, c'est d'être droit, le corps bien droit, des mouvements qui soient assurés et qui montrent voilà, de l'assurance. Si vous devez serrer la main, mais il ne faut pas arriver avec, je dirais, une attitude comme ça un peu soumise, parce que c'est parfois ce qui se passe quand on est stressé. Donc, une poignée de main ferme, pas casser les mains de la personne, mais certaines fermetés qui montrent justement votre affirmation. Ensuite, c'est les 20 premiers mots que vous allez dire. Donc là, je ne vais pas insister, ça se prépare, c'est le pitch. Comment va-t-on se présenter? Et surtout, pas juste en parlant de moi, mais qu'est-ce que vous apportez à l'autre? Parce que c'est ça qui l'intéresse. Si vous ne parlez que de vous, il va dire cause toujours, tu m'intéresses, et il ne va pas vous écouter. Il y a beaucoup de commerciaux, malheureusement, qui se comportent comme ça. Alors, ils s'étonnent que le client ne... Mais le client, il ne dit rien, il ne parle pas. Ben non, qu'est-ce que vous avez fait pour entrer en relation et pour qu'il ait envie de parler avec vous? Donc, il faut, voilà, se présenter en s'intéressant à l'autre. Et tout ça, ça dure ben, une vingtaine de secondes. Donc, le travail va se faire vraiment mentalement, c'est clair, parce que vous devez activer votre conscience. Parce que dans la vie de tous les jours, on fonctionne souvent en automatique. Hein. Donc, c'est notre cerveau automatique qui fait qu'on agit. Et pendant ce temps-là, on est en train de réfléchir. Oui, mais qu'est-ce que je vais lui raconter? Oh, je suis stressé, qu'est-ce que je vais raconter? Et donc, on fonctionne en automatique. Donc l'idée, c'est de reprendre le contrôle, et donc ça veut dire qu'il faut se concentrer sur soi d'abord, son corps, pour pouvoir empêcher de montrer notre stress. Alors là, nous allons voir justement le travail sur la posture. Donc la bonne posture, d'abord, c'est une posture droite. Vous avez vu que les postures repliées sur la photo ben, montrent un sentiment voilà, de stress, de manque de confiance, parfois de tristesse. Donc là, il faut apprendre à se redresser et à ouvrir un peu les épaules. Donc ça, c'est l'idée d'une posture affirmée. Et donc, l'idée, c'est de mimer la confiance. Comment vous pouvez montrer à votre interlocuteur que vous êtes en confiance? Donc, vous allez adopter une posture de confiance. Et là, je vais parler de travaux qui ont été faits dans le domaine pour vous montrer que le corps, en fait, le non-verbal, il exprime notre attitude intérieure. Ça, c'est le principe de base. Mais la dame qui est ici, qui est Ami Kedi, elle a étudié en fait comment le corps, le travail sur le corps, pouvait influencer notre attitude intérieure. Donc on fait un travail dans l'autre sens. Et donc elle a fait plusieurs études dans le domaine, elle a travaillé avec des participants auxquels elle a demandé d'adopter des postures. Et donc je vais vous montrer ici le protocole de l'étude. Donc d'un côté, elle va demander à une série de participants d'adopter des postures de pouvoir, c'est-à-dire des postures bien ouvertes qui montrent de l'affirmation. Elle ne leur dit pas « soyez affirmés », elle leur dit « voilà, faites une posture comme là ». Donc on ne travaille pas sur le mental, on travaille sur le corps uniquement. Elle dit « voilà, asseyez-vous et reproduisez cette posture. Une minute. » Et puis après, une minute, vous faites cette posture-là. Ok ? Ça c'est le protocole. Dans l'autre groupe, un groupe comparatif, on demande de faire ces deux postures. Une minute, une minute. Donc vous voyez des postures ici de repli. Et alors les résultats sont assez intéressants parce qu'après avoir fait ces postures, deux minutes de posture, elle va mesurer dans la salive les taux d'hormones. Et en fait, on constate dans le groupe ici qui a fait les postures de pouvoir que la testostérone va monter. Testostérone, c'est l'hormone masculine, mais qui est bien sûr aussi présente chez la femme, et qui est l'hormone, en fait, de l'affirmation. Par contre, vous voyez à côté de ça que le cortisol, lui, il va baisser. Ici. Pour les gens qui font les postures de pouvoir, le cortisol, qui est l'hormone du stress, va baisser. Alors que les gens qui font les postures repliées, on va avoir une diminution de la testostérone et une augmentation du cortisol. Donc ça veut dire que quand vous avez une posture repliée parce que vous êtes stressé, si vous restez replié, vous allez continuer à stresser et vous allez même augmenter le stress. Donc quand vous vous sentez stressé, que vous êtes assis dans une salle d'attente, occupé à attendre un rendez-vous, prenez conscience de comment vous êtes. Redressez-vous sur votre fauteuil, prenez une bonne posture bien droite, hein, vous pouvez d'ailleurs faire l'exercice ici, pour ceux qui ne le sont pas vraiment, mais je vois que beaucoup ont déjà une bonne posture. Donc en travaillant sur votre posture, vous voyez, vous travaillez aussi sur votre attitude interne, parce que ça fait bouger les hormones à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est assez révolutionnaire. À la limite, c'est une étude qui confirme ce que l'on dit déjà depuis des siècles, puisque les anciens, déjà bien avant Jésus-Christ, hein, tous les philosophes antiques, que ce soit dans la Rome antique, la Grèce antique, l'Égypte, tous ont déjà dit effectivement qu'il y avait un lien entre le corps et l'esprit, et que travailler sur le corps, ça influence l'esprit, et vice-versa. Donc, on peut travailler sur soi en adoptant des comportements, des rituels de comportement, des rituels d'attitude qui vont influencer notre mindset. Donc ça, c'est quelque chose de facile, plus facile à faire que de travailler directement sur le mental. Donc travailler sur le corps, c'est directement à notre portée en termes de conscience. On peut se redresser, on peut prendre conscience de son corps et c'est plus facile que de changer les idées qui circulent et qui sont négatives. D'accord ? Est-ce que vous voyez du sens dans tout ça ? Ok. Donc, les postures que vous pouvez adopter pour vous entraîner, vous voyez, sont des postures ouvertes. Donc, par exemple, avant d'aller à un entretien, hein, vous pouvez très bien, chez vous, hein, donc travailler quelques minutes sur des postures de pouvoir. Pendant ce temps-là, vous pouvez respirer, avoir une bonne respiration profonde et rythmée. Ça va vous aider à vous concentrer. Et ça va vous aider, voilà, à booster votre confiance en vous. Alors, vous voyez qu'il y a des postures qui sont très ostentatoires. On ne peut pas faire ça devant un public. Hein. Si je m'emmenais ici devant vous comme ça, ça ferait un peu bizarre. Par contre, quand je me mets devant vous avec les deux pieds légèrement écartés, en fait, j'adopte une posture de confiance. Et c'est tout à fait la posture qui convient quand on parle devant un public. C'est d'ailleurs la posture que je recommande dans mes formations en prise de parole. Donc, voilà, ce sont des postures très faciles qui n'ont pas de côté trop voyant et que vous pouvez adopter dans différentes situations. Donc, entraînez-vous à prendre ce genre de posture quand vous attendez un taxi, quand vous êtes au guichet des banques, dans les grands magasins, etc. Donc, voilà, entraînez-vous, prenez conscience. D'ailleurs, je vous demande de vous lever tous, hein, tous et toutes. Donc, levez-vous. Donc, vous pouvez poser vos cahiers sur la chaise. Et donc, vous trouvez la posture, hein, les pieds légèrement écartés, à peu près à la largeur des épaules ou des hanches. Et vous essayez de trouver votre centre de gravité. Vous pouvez balancer un peu vers l'avant ou vers l'arrière. Et puis là, où vous êtes bien en équilibre, donc vous vous ouvrez bien, vous redressez. Pas crispé, hein. L'idée c'est pas d'être tendu, donc c'est d'être redressé, mais en même temps un peu cool, un peu relax, d'accord? Donc c'est pas confortable peut-être au début, parce que vous n'avez pas l'habitude, mais une fois qu'on fait ça, après moi je peux rester des heures plus ou moins dans cette posture-là, quand je donne des formations, c'est relativement confortable. Voilà, vous pouvez vous asseoir, merci. Le temps, combien il est?
45.
Ok, je vais accélérer. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous entraîner à ce genre de choses. Vous voyez qu'on peut travailler sur soi de manière très simple, hein, ce n'est pas des choses très compliquées. Donc, le tout, c'est que ça doit venir de vous. Donc, la porte du changement, elle ne s'ouvre que de l'intérieur. Donc, ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est de vous donner quelques clés pour pouvoir vous aider dans ce raisonnement. Mais la clé de la porte qui ouvre vers le changement, c'est vous qui l'avez. Donc ça dépend de vous d'appliquer ou pas ce genre de choses. Alors pour vous aider, donc simplement essayez de vous observer. Donc ça c'est le plus important. Plusieurs fois pendant la journée, dès que vous le pouvez en fait, essayez de prendre conscience de comment vous êtes. Comment vous êtes positionné, comment est votre corps, est-ce que vous êtes avachi ou pas, et éventuellement quel est votre état d'esprit. Et à ce moment-là, prenez le contrôle des choses, hein, vous reprenez la conscience et vous vous redressez, vous apprenez effectivement à gérer ainsi votre attitude plutôt que de laisser votre attitude aller selon vos émotions ou votre motivation. Donc c'est à vous de redresser la barre et tout ça va jouer alors sur vos émotions, sur votre attitude intérieure et aussi sur votre mental. Parce que réussir ça à chaque fois, ça veut dire que vous avez gagné. Vous avez réussi, vous avez pris le contrôle. Donc c'est une victoire. Et cette victoire, elle nourrit votre confiance en vous. D'accord ? Donc c'est comme ça que vous allez petit à petit vous transformer. Alors pour terminer et donc pour vous aider, donc j'ai en fait mis il y a quelques mois sur internet des vidéos que vous pouvez toujours retrouver bien sûr sur YouTube. Ce sont des vidéos pour des exercices au quotidien pour booster son charisme et son leadership. Donc il y a 21 jours avec différents exercices pour la posture, pour l'affirmation, pour la prise de parole. Et en fait j'en ai fait un e-book que je vends normalement à 7 euros. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je vais vous inviter à aller sur ma page Facebook. Ah mais j'avais repris, mais c'est pas sur cette présentation-ci. En fait, j'ai une page Facebook, Non-Verbal Charisme. Si vous y allez aujourd'hui, vous allez retrouver un lien pour avoir cet e-book gratuit où vous avez effectivement 21 jours d'exercice pour pouvoir booster votre charisme et votre leadership. Donc allez-y, parce qu'à partir de demain, ça sera fini, donc là, il sera mis en vente. Donc, mais pour l'occasion de cette conférence et des deux journées, donc je vous offre cet e-book. Alors ceux qui veulent éventuellement aller plus loin et avoir les vidéos, donc j'ai aussi des DVD avec les 21 vidéos plus deux ou trois autres en complément. Donc ceux-là, ils sont à la vente, à 5000, et ceux qui sont intéressés, vous viendrez me voir tout à l'heure. Voilà, donc je vous invite alors à mettre cela en œuvre au quotidien, des petites choses, des rituels physiques, des pensées que vous pouvez récolter pour vous booster et en même temps ressentir les changements en vous. De cette manière-là, petit à petit, vous allez unifier les trois corps qui font partie de notre unité. Quand on crée l'unité, on crée l'authenticité. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.